En fait, je ne suis pas du tout spécialiste des objets communicants puisque je travaille sur les problèmes d'apprentissage moteur en général. Mais donc, on m'a demandé de parler plus de problèmes de contexte, d'apprentissage et d'ethnothéorie. Je m'expliquerai dans 5 minutes pour dire ce que j'entends par ethnothéorie. En fait, je voudrais commencer par relater une étude qui n'est pas du tout sur les enfants, mais qui, à mon avis, pose bien de problèmes après avoir essayé de regarder un petit peu quelques articles des personnes donc, qui vont parler ici. C'est une étude, en fait, d'une équipe de chirurgiens israélo-américains qui, en fait, après avoir vu opérer un certain nombre de chirurgiens, ont fait l'hypothèse qu'il y avait un lien probable entre la pratique des jeux vidéo et en fait l'habileté à la chirurgie aux techniques d'endoscopie, Donc ils ont fait une étude avec un peu plus d'une trentaine de chirurgiens, avec des chirurgiens donc, qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo et d'autres chirurgiens donc, qui jouaient beaucoup moins. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait ceux qui étaient adeptes des jeux vidéo non seulement faisaient beaucoup moins d'erreurs, plus de 30%, 35% de moins d'erreurs, et par ailleurs allaient nettement plus vite dans leurs opérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de plus ou moins inattendu. On ne s'attend pas à ce que des chirurgiens, on aille leur demander s'ils jouent aux jeux vidéo. Et en fait, à la suite de cette étude, ce qu'ils ont proposé, c'était que l'entraînement aux jeux vidéo fasse partie de l'enseignement, de la formation de ces chirurgiens qui devaient travailler donc, à partir d'endoscopie. Puisque dans l'endoscopie, on ne voit pas directement, mais on voit ce qui se passe, en fait, la chirurgie, à partir d'un écran. Donc, l'idée, c'est ça montre finalement la complexité du rôle indirect, si on veut, de tous ces objets communicants avec l'apprentissage. Puisque dans le cas de la chirurgie, c'était évidemment un apprentissage, je dirais, implicite, et non pas, alors que la chirurgie, elle, ferait partie d'un apprentissage formel. Alors que les jeux vidéo, on pourrait les caractériser ces résultats par un apprentissage informel. Donc l'idée, les apprentissages informels sont souvent considérés comme ceux qui se font en dehors de l'école, les apprentissages formels étant ceux qui se feraient à l'école. Et souvent, on distingue les deux, alors que ce que j'aimerais juste simplement dire en 5 minutes, c'est que dans le fond, c'est pas du tout aussi évident, même si effectivement, les apprentissages scolaires, il y a un certain nombre d'apprentissages formels. La question, et je pense que c'est celle qui va être débattue aujourd'hui, c'est finalement quel est le rôle des objets communicants? Est-ce qu'en fait ils jouent dans les apprentissages formels ou dans les apprentissages informels? Alors, j'aime pas vraiment en fait cette distinction formelle-informelle parce qu'elle est trop catégorique, mais dans le fond, en fait, on dit souvent finalement le formel, on a un contrôle des objectifs, et l'informel, il n'y aurait pas de contrôle explicite des objectifs des apprentissages ou des situations. Et donc, il y aurait un contrôle de plus en plus intentionnel quand on va de l'informel au formel. Et pour l'apprentissage, en fait, on irait d'un apprentissage incident dans l'informel, c'est ce qui serait finalement le cas de ces chirurgiens, jusqu'à un apprentissage intentionnel où on a une planification des acquisitions. Alors ici, on peut donner donc, à la maison, ce serait incident. Et là, on voit un grand-père avec son petit-fils, de l'informel. Donc c'est informel. On est de ces situations-là qu'on connaît tous, et dans le formel, c'est l'utilisation de l'informatique et autres à l'école, dont plusieurs personnes donc, parleront aujourd'hui. Alors la question, c'est finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Enfin, quand on voit ces deux situations, là j'ai essayé de trouver quelques images, enfin, quelques illustrations. Dans le fond, ces deux situations qui sont soit à la maison, donc dans un cadre soi-disant informel, et ou à l'école dans un cadre formel, est-ce que pour les enfants, enfin, quelle est la différence? C'est, je pense, que ce qui va être discuté aujourd'hui. Alors, ces études, comme celles que je viens de citer, en fait, on considère souvent que les conséquences peuvent être éventuellement négatives ou néfastes, mais il y a aussi un certain nombre d'études qui considèrent que l'utilisation de jeux vidéo, par exemple, a des conséquences, des conséquences cognitives, positives, si on veut. Elles font évoluer les coordinations humaines, l'attention visuelle, l'apprentissage visuo-spatial, etc. Alors, je ne parlerai pas de ça, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous en parleront. Et ce que je voulais simplement discuter rapidement, puisque c'était le titre de ma communication, c'est finalement parler de ce qu'on appelle la niche de développement, parce que je trouve que c'est un concept qui peut être réellement intéressant, qui avait été élaboré par Super et Harkness en 1986, c'est un très joli article, que je cite depuis cette époque-là. D'autres personnes ont parlé de niche de développement, mais je pense qu'ils ont eu le mérite d'en parler de manière à ce que ce soit tellement explicite qu'on ne peut que adhérer à ce qu'ils disent. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, l'enfant est au centre de cette niche de développement. Et cette niche de développement, elle aurait trois composantes. La première composante, qui en fait est le contexte économique et social. Et là, on voit très bien, ces 20 dernières années, finalement, la présence de plus en plus importante de ces objets communicants, on voit très bien en fait que ça détermine des pays finalement ou des régions du monde où en fait ce contexte technique est de plus en plus présent. Moi je reviens d'un mois en Inde, dans des zones rurales, il n'y a absolument pas d'objets communicants à part la télévision de temps en temps. La deuxième dimension qui est aussi extrêmement importante à mon avis et qui vaut la peine de discuter, c'est ce qu'on peut appeler les ethnothéories de l'enfant dans notre cas, de ses besoins, de son développement et de l'apprentissage. Et ça, je pense qu'on a tous des... Pourquoi être nos théories ? Parce que ces théories, dans le fond, de ce que c'est que l'enfant, de ce que c'est que l'apprentissage, elles varient d'un groupe socio-culturel à un autre. Et en fait, on a tous des théories sur, par exemple, l'âge auquel on doit commencer certains apprentissages. Est-ce que oui ou non, il faut utiliser des tablettes ? Est-ce qu'il faut les utiliser à la maison, à l'école, etc. ? Ça, ce sont finalement des théories. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les théories, elles dépendent de beaucoup de choses. Elles ne sont pas du tout universelles. Et comme les théories du développement ou les théories des besoins des enfants, les théories de l'apprentissage peuvent être extrêmement différentes, même si maintenant on s'appuie sur des théories scientifiques, même dans ce cas-là, je pense que ces théories varient énormément. Et la dernière dimension, c'est en fait toutes les pratiques d'éducation, et toutes les pratiques d'interaction adulte-enfant. Et je pense que ce soit à l'école ou à la maison ou dans n'importe quelle situation sociale, on a ces pratiques d'éducation, elles peuvent aussi varier non seulement d'un groupe socioculturel à l'autre ou d'une culture, d'une région à l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que ces trois dimensions, elles interagissent les unes avec les autres. Mais ce que je pense être intéressant, ce n'est pas vraiment uniquement cette niche de développement qui, à mon avis, donne une manière d'aborder ces problèmes ou de serrer. Ce n'est pas une théorie, c'est simplement une manière, un cadre d'analyse. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est en fait de comprendre comment cette niche de développement va construire un environnement qu'on peut appeler, quand on s'intéresse à l'apprentissage et au développement, qu'on appelle, ça c'était avec Edward Reed il y a quelques années, j'avais fait un article là-dessus, qu'on peut appeler espace d'action encouragée, c'est-à-dire la manière dont est organisé l'espace de l'apprenant, de l'enfant dans notre cas, puisque c'est dans cet espace-là que l'enfant va avoir un certain nombre d'expériences, et ce sont ces expériences qui vont contribuer à l'apprentissage. Et donc, ces expériences, elles vont permettre, en fait, à l'enfant, en sollicitant toutes ses capacités, je dirais, ces mécanismes psychologiques d'apprentissage au sens large, ça va lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences culturelles. Et là, dans le fond, les objets communicants, ils ont un rôle particulier, puisqu'on a vu qu'ils pouvaient être utilisés, dans l'exemple que j'ai donné au départ, ils pouvaient être utilisés pour des enseignements formels, évidemment, mais aussi pour des acquisitions qui sont, dans le fond, tout à fait informelles et donc qui sont indirectement issues de l'utilisation de ces objets communicants. Alors, pour résumer, en fait, ce que j'aime bien résumer la situation comme ça, c'est en fait que cet espace d'action encouragé, c'est un ensemble d'actions qui sont encouragées socialement à la portée des enfants. Et là, donc, les situations, que ce soit à la maison ou à l'école, les enfants sont dans un espace, en fait, d'actions qui sont plus ou moins encouragées. Ensuite, on peut dire, si on s'intéresse à une activité particulière, on peut dire en fait qu'il y a un espace de l'activité. Et par ailleurs, il y a un espace d'action qui est l'espace d'action de l'enfant. Et l'idée, c'est que l'apprentissage, en fait, pour un enfant, c'est de passer d'un espace d'action assez large et dans un apprentissage particulier et de progressivement, grâce en fait à l'organisation de cet espace encouragé qui comporte aussi bien la manière dont est organisée, par exemple, une école, que les interactions adulte-enfant ou tuteur-apprenant, comme on veut. Et en fait, l'idée, c'est que pour apprendre et pour maîtriser une activité particulière, l'enfant va explorer tout cet espace d'action et progressivement va parvenir en fait, à cette interaction entre son activité et l'espace de l'activité. Et en fait, tout ça se passe dans un milieu nettement plus large, qui est finalement le milieu organisé par la société dans laquelle on vit. Alors, pour conclure, en fait, je dirais d'après ce cadre d'analyse, on pourrait dire qu'apprendre, c'est en fait essayer d'exploiter et d'explorer les contraintes en fait, qui organisent l'espace d'activité, c'est-à-dire en fait rechercher les régularités de l'activité sur laquelle l'activité donc apprise, dans laquelle les enfants l'activité à apprendre. Voilà, donc ça c'était pour présenter un peu rapidement ce qu'on peut, la manière dont on peut essayer d'étudier l'environnement de l'enfant dans le cas de l'apprentissage en général et dans le cas de l'apprentissage qui nous intéresse, des apprentissages qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, je voulais simplement terminer en disant donc la journée est organisée, vous avez tous eu le planning de la journée, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est organisé, donc il y a une alternance entre des recherches par des équipes de chercheurs universitaires et puis donc des praticiens qui, eux, connaissent vraiment le fond des problèmes et sont confrontés finalement tous les jours à ces questions. Donc ce matin, on a donc Lydia Plowman qui est de l'Université d'Édimbourg, qui est chef du département responsable du département d'éducation et de technologie. Et ensuite, Adeline Collin, qui est une enseignante, une conseillère pédagogique. Et la discussion donc, sera animée par Béatrice Frankel. Et l'après-midi, il y aura la même succession donc, de Laetitia Bulch et de François-Xavier Bernard, donc, qui sont des enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Descartes, ici. Et ensuite, donc, de François Lamoureux, qui est concerné directement par l'enseignement. Et ensuite, on aura à nouveau la même alternance d'une recherche par Denis Pascot et Sébastien Kubicki. Et ensuite, Françoise Kay, qui présentera des travaux, donc des expériences à l'école maternelle. Voilà, donc je vous souhaite une journée intéressante. Et je passe la parole à Lydia Plowman.